Chers auditeurs de Radio Maria, nous retrouvons Hugues Dollier pour l'émission L'éducation dans les évangiles. Et aujourd'hui, nous parlons de la tendresse de Marie. Hugues Dollier, bonjour.
Bonjour Sandra et bonjour à tous les auditeurs de Radio Maria. Voilà, nous nous retrouvons en cette fin d'année là pour cette une belle émission. On va terminer avec la Vierge Marie. C'est vrai que je parle même pas souvent de la Vierge Marie. Toute cette année, on a parlé plus de Dieu, de la Trinité. Mais je voulais terminer cette année avec ce thème. Donc transmettre la tendresse de Marie à nos enfants hein, dans l'éducation. Transmettre cette dimension mariale qui me semble importante. Alors, la dernière fois, nous avions parlé de la tendresse de Dieu, hein, et donc aujourd'hui, on parle de la tendresse de Marie. Ça veut dire que la question qui se pose sous-jacente, c'est quelle est la place de Marie dans notre foi ? Alors, c'est vrai que c'est Jésus hein, qui est le centre de notre foi. Le Christ est mort et ressuscité pour nous sauver du péché et nous donner l'accès à la vie éternelle. Bon, ça, c'est vraiment. Sans cela, comme dit saint Paul, vaine est notre foi. Hein. Et nos frères protestants nous rappellent bien, hein, au nom de Jésus, par le nom de Jésus, nous sommes sauvés. Ça, c'est bien clair. Alors, nous, les catholiques, et alors surtout les orthodoxes, hein, les orthodoxes encore davantage que les catholiques, hein, Marie a une place centrale dans l'œuvre du salut, dans notre foi, et ça, c'est important. Hein. Donc, nous croyons... en Dieu, nous croyons le Père, mais nous croyons aussi à Marie, Marie qui est mère de Dieu, hein, comme nous le rappelle, et puis Marie, Vierge Marie, qui a donné à Jésus son corps hein, par l'Esprit Saint. Voilà. Alors, quand on fait la catéchèse aux enfants, est-ce qu'on pense à enseigner la Vierge Marie à nos enfants ? C'est la question qu'il faut se poser, quoi. C'est-à-dire qu'on enseigne beaucoup de choses hein, sur la... Alors, vous allez me dire, effectivement, quand on parle de la... dans la Bible, il n'y a pas grand-chose qui parle de Marie. Il n'y a pas beaucoup de choses qui parlent de Marie. Hein. Il y a l'Annonciation, hein, la Visitation. Voilà, donc on a tendance un peu à dire, oui, alors Marie, elle était avec Joseph dans la crèche. Il y avait Marie, il y avait Joseph, il y avait un âne et il y avait un bœuf. Voilà, bon, ça c'est la Vierge Marie, ça s'arrête là. Voilà. Et puis après, on a tout l'enseignement de Jésus qui est le corps principal de notre catéchèse. Voilà. Et donc, on a tendance un petit peu à oublier Marie. Or, Marie, elle a une place dans notre vie. Alors, comme à chaque émission, donc j'ai choisi un texte d'évangile hein, qui va nous servir de support à cet enseignement d'aujourd'hui. Et donc j'ai pris le chapitre 2 de Saint Jean, qui sont les noces de Cana. Voilà. Donc je vais vous lire le chapitre 2, c'est le tout début du chapitre 2, c'est les noces de Cana. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ses noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore arrivée. » Sa mère dit au servant, « Tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Or, il y avait 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres. » Il les remplit jusqu'au bord. Il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que les servants le savaient, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut le premier des miracles de Jésus. Il l'accomplit à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Voilà, alors on reviendra sur ce texte tout à l'heure hein, pour le commenter. Et vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce texte pour parler de la tendresse de Marie. Mais avant de parler de la tendresse de Marie, je voulais juste revenir sur un petit point préalable qui est de dire que Marie est notre mère. Parce que, vous comprenez, dire, bon, la tendresse de Marie, oui, mais Marie a cette tendresse pour ses enfants si nous sommes ses enfants. Mais si nous sommes ses enfants, c'est qu'elle est notre mère. Voilà. Donc, on avait dit la dernière fois, vous vous souvenez, que Dieu est à la fois père et mère. Parce qu'on se souvient du magnifique tableau de Rembrandt, du fils prodigue. Il a une grande main de père et une petite main de mère. Donc, Dieu est à la fois père et mère. Voilà. Et nous, dans notre foi, l'Église nous invite à prendre Marie notre mère. Alors, d'abord, d'où est-ce que ça vient? Ça prend sa source où? Alors, ça prend sa source à nouveau en Saint Jean. Hein, et ça, c'est tout à fait à la fin de l'évangile de Saint Jean, c'est au chapitre 19, où Jésus est sur la croix. Jésus se tourne vers le disciple, hein, vers Saint Jean. Il se tourne d'abord vers sa mère. Il lui dit « Femme, voici ton fils ». Puis ensuite, il se tourne vers Saint Jean, vers le disciple, et il lui dit « Voici ta mère ». Voilà. Et à partir de cet instant, le disciple a pris chez lui. Donc, il y a de la part de Jésus qui s'adresse à Marie en lui disant au disciple, c'est ton fils. Alors, ce n'est pas ce disciple-là particulièrement, c'est nous tous. Hein. Jésus va conforter Marie dans sa maternité vis-à-vis des enfants de la terre en disant, eh bien, ces enfants qui sont là, prends-les comme tes enfants. Voilà. Et puis, il nous demande à nous, hein, par l'intermédiaire du disciple bien-aimé, en disant, voilà, prenez Marie comme votre mère. Et donc, voilà, Jésus nous invite à prendre Marie comme notre mère. Ça, c'est important. Hein. Avant de parler de la tendresse de Marie, il faut bien comprendre la maternité de Marie pour nous. Alors, il y a des qui disent, oui, mais moi, je n'ai pas besoin de Marie dans ma vie, voilà. Et voyez, nos amis, nos frères protestants, eux, la Vierge Marie, ils ne la prient pas et ça va très bien. Voilà. Alors, c'est un peu toujours la question, est-ce qu'on peut vivre en chrétien sans la Vierge Marie? Alors, je vais vous faire une comparaison, mais qui est une mauvaise comparaison. Mais enfin, bon, c'est un peu pour vous expliquer. J'ai des amis, leur fils est parti en Australie à 25-26 ans, il est parti en Australie tenter sa chance, voilà, parce que voilà, il n'avait pas de travail, il dit, bon, allez, je vais partir comme serveur dans une pizzeria à Sydney, comme font beaucoup de Français qui se trouvent à Sydney. Voilà, et puis finalement, il a trouvé un métier, il est charpentier, et il a trouvé une petite femme, voilà, et puis il s'est marié, il a eu un enfant. Et alors, les grands-parents, en fait, hein, se disaient, mais voilà, nous, cet enfant va vivre sans ses grands-parents. Alors, aujourd'hui, c'est un peu plus simple que dans le temps, parce qu'aujourd'hui, il y a quand même Skype, donc on peut se parler par Skype. Mais c'est pour montrer ce que ça veut dire, ben voilà, on vit sans les grands-parents. Bon, on vit avec son papa et sa maman, bon, ça va. Mais il y a une grâce, la grâce des grands-parents, hein, qui est quelque chose. Alors, c'est pas... ce que je veux dire, c'est la relation qu'on a avec les grands-parents et la relation qu'on a avec ses parents, c'est pas du même ordre, c'est pas la même chose, voilà. Et donc dans la vie d'un enfant, avoir une relation avec ses parents, c'est bien, avoir une relation avec ses grands-parents, c'est aussi un plus, c'est quelque chose, voilà. Alors c'est juste pour vous expliquer un petit peu, c'est pas une bonne comparaison, me dites pas que théologiquement, je peux pas, on va pas assimiler la Vierge Marie à la grand-mère, mais c'est pour vous essayer de vous faire comprendre, hein, voilà, que c'est dommage. C'est dommage de passer à côté de cette relation avec Marie. Voilà. Donc, quand on va enseigner la foi à nos enfants, eh bien, n'oublions pas cela. Alors, évidemment, vous allez me dire, oui, mais si pour nous, ça n'évoque pas grand-chose, c'est compliqué. Alors, c'est cet enseignement aujourd'hui, ben, c'est de se dire, est-ce que dans notre vie, est-ce qu'on dit Marie, c'est notre mère? C'est la question qu'il faut se poser, que voilà, que je vous pose ce matin. Voilà, c'est peut-être une occasion de réfléchir vous-même à, en tant que parent, quelle est la place de Marie dans votre vie. Hein? Alors l'autre point aussi, ça va être, vous allez me dire, mais c'est votre titre, La tendresse de Marie, c'est un peu une évidence, quoi. Hein, parce que Marie, c'est une mère. Donc une mère, c'est forcément, il y a forcément la tendresse de la mère. Voilà, parce que toutes les mères, elles ont la tendresse. Donc ça va de soi. Voilà. Alors, on est en période de fête des mères. Donc les enfants préparent des colliers en nouilles pour leur maman. En réalité, alors c'est vrai que la mère porte l'enfant, elle allaite l'enfant. Il y a toutes des marques fortes de tendresse, etc. Quand les enfants sont petits. Donc, il y a cette proximité. D'ailleurs, que des pères ont aussi cette marque de tendresse avec leur enfant. Mais en fait, il y a aussi des mères qui n'ont pas beaucoup de tendresse. C'est-à-dire que moi, j'ai connu des couples où c'était plutôt le père qui avait des gestes tendres et la mère était raide, raide. Voilà, donc, ce n'est pas forcément une évidence que forcément, si c'est une mère, elle a forcément une grande tendresse. Et alors, je voyais notamment, je voulais vous raconter ce petit témoignage que je trouvais intéressant, notamment par rapport à des mères un peu fusionnelles avec leur fils, hein, qui ont du mal à laisser, voilà, à laisser leur fils partir, hein, dans la vie. Et là, c'est une mauvaise tendresse, c'est pas une tendresse généreuse, aimante, c'est une tendresse captive. Voilà. Et donc, c'est un couple qu'on a connu. Donc, lui, il avait à peu près, je pense, bah, à l'époque, ça date quand même, mais je pense qu'il va avoir à peu près entre 35, voilà, entre 35 et 40 ans. Voilà. 35-40 ans, ils avaient deux enfants. Et bah, sa maman lui repassait ses chemises, sa maman lui préparait, parce qu'il se trouvait que son travail était juste à côté de là où habitait sa maman. Donc sa maman lui faisait à manger le midi. De temps en temps, sa maman lui donnait un petit peu d'argent de poche. Voilà. Et lui, il ne savait pas dire non à sa maman. Voilà. Il ne savait pas dire non. Alors sa femme en avait marre parce qu'il disait, c'était gentil de la part de sa maman. Mais enfin, bon, à 35 ans, il pouvait se débrouiller. Il n'avait pas besoin que sa maman lui repasse ses chemises. Mais elle faisait ça toujours, voilà, s'occuper de son petit chéri, s'occuper de son petit chéri, etc. Donc voilà, tout le temps. Et leur couple est parti en divorce, quoi. Enfin, c'est mal parti. Et nous, on a accompagné ce couple, voilà. Et alors, c'était très, très compliqué, très tendu. Donc, ils se sont séparés. Chacun vécu dans son coin. Voilà. Et puis, lui a fait un peu une dépression. Il est parti en hôpital psychiatrique, etc. Donc, on est allé le rencontrer. Et puis, on lui a dit, mais il faudrait que tu ailles faire une retraite spirituelle. Voilà, retrouver. Bon, voilà. Il a fait une retraite spirituelle. Il a été très bien accompagné. Et pendant cette retraite spirituelle, il a fait la découverte de Marie. Il ne connaissait pas du tout la Vierge Marie. Voilà. Et il a pris Marie comme sa mère. Voilà. Il a dit, ben voilà, Marie, c'est ma mère. Et alors, ça lui a permis, à ce moment-là, de dire, ben oui, finalement, j'ai plus besoin, je peux dire non à ma maman de terre, de la terre, voilà, lui dire, ben non, mais j'ai pas besoin qu'il me repasse mes chemises, voilà, etc. Donc, il a pu réussir à couper le cordon ombilical de sa maman. Et voilà. Et donc après, bon, c'est un couple maintenant qui va bien, qui s'est reconstruit. Ils se sont remis ensemble. Voilà, il y a eu un chemin de conversion qui s'est fait grâce à justement cette maternité de Marie qui a permis à ce père de famille, eh bien finalement, de rééquilibrer. Voilà, de rééquilibrer sa relation avec sa mère. Voilà. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que c'est important cet exemple-là. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est la tendresse de Marie. Donc, on a vu tout d'abord, dans un premier temps, de prendre Marie comme notre mère. Et alors, cette mère, elle a de la tendresse pour nous. Alors, la tendresse, il faut pas la prendre comme au sens Marie me fait un câlin, me fait des petits bisous, etc. Parce que moi, Marie, j'aime bien Marie, mais je ne sens pas ces petits bisous, voilà. Hein. Et on avait évoqué la tendresse de Dieu la dernière fois, et on avait dit qu'en fait, la tendresse de Dieu, c'était une façon de parler de la miséricorde de Dieu. Et l'image qu'on avait retenue, c'était le texte, c'était l'enfant prodigue, et on avait eu cette image du père qui court vers son fils, le fils prodigue, qui le prend, et avant même qu'il ait le temps de balbutier tout ce qu'il avait mis dans sa tête, il l'enlace, il le prend dans ses bras, il l'enlace, voilà, j'ai retrouvé mon fils qui était perdu. Voilà, ça c'est la tendresse de Dieu. Voilà. Et c'est donc le pardon, la miséricorde, le pardon de Dieu. Hein. Alors, la tendresse de Marie, ce n'est pas la même chose que la tendresse de Dieu. Ce sont deux choses différentes. Ce n'est pas la même relation qu'on a avec Marie. Parce que Marie, ce n'est pas notre sauveur. Marie, elle ne nous pardonne pas de nos péchés. Marie, elle n'est pas morte sur la croix pour nous sauver du péché. Marie, elle nous mène au Fils, toujours. Elle nous amène vers le Fils. Marie, voilà, c'est là où elle veut nous emmener. Vous voyez, on va voir dans les noces de Cana, Marie, ce n'est pas elle qui fait un miracle, ce n'est pas elle qui change l'eau en vin. Marie, elle l'amène à Jésus, elle l'amène au vin, le vin de Cana. Alors après, si vous avez des questions sur Cana, vous pourrez les poser après la pause musicale. On peut en parler pendant 3 heures des noces de Cana. Mais l'objectif de ça, c'était de montrer que. Vous voyez, c'est Marie qui nous amène au Fils. Alors, quand on regarde les noces de Cana, on se dit quand même, Jésus, il n'est quand même pas très malin, quoi, parce que, ils n'ont plus de vin. Lui, il est là avec ses disciples, ils discutent, etc. Et puis, il ne voit pas le problème. Hein, alors qu'elle, Marie, hop, elle est là, elle se rend compte qu'il y a un problème, qu'il n'y a plus de vin, tout ça. Alors, les gens disent, ah, mais oui, mais vous savez, ça, c'est la différence entre les hommes et les femmes. Les hommes, ils sont dans leur truc. Monotache, ils ne voient rien. Les femmes, elles sont attentives, elles voient ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe dans la cuisine, etc. Donc, elles sont plus attentives. C'est pour ça, cet évangile, ça nous montre la différence entre les hommes et les femmes. Alors, ce n'est pas vraiment comme ça. Hein? Ce n'est pas vraiment comme ça qu'il faut lire cet évangile. Dans le sens, ce n'est pas se dire que Jésus n'est pas très malin et qu'il n'a rien compris. Non, ce n'est pas ça. C'est ça, c'est un mystère. Et alors, c'est un mystère qui est très, très important. C'est que Dieu le Père exprime sa volonté au Fils en passant par Marie. C'est-à-dire que le Père du ciel renonce à donner sa volonté au Fils par l'Esprit en disant « Je veux passer par Marie ». C'est curieux ça quand même, hein? Mais ça, c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que c'est pas tout d'un coup Jésus est rempli d'Esprit Saint et en disant « Allez, remplissez-moi d'eau ces jarres ». Non. C'est Marie vient voir Jésus et dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Et là, la réaction de Jésus est assez forte. Femme, que me veux-tu? Hein, qui se traduit, mais femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. Mon heure n'est pas arrivée. Pourquoi est-ce que tu es en train là de me parler du sang nouveau, le vin nouveau qui sera le sang versé? Hein? C'est pas le moment de mon don, voilà, hein, puisque bon, on a compris ce qu'il y a dans ce texte-là, voilà, et voilà, faites ce qu'il vous dira, vous inquiétez pas, faites ce qu'il vous dira, ce qu'il va faire, ça sera bien, voilà. Et par Marie, à ce moment-là, eh bien, Jésus va entrer, ce sera son premier miracle, hein, voilà. Donc, ça passe par Marie. Et là, c'est très important parce que ça nous donne tout le rôle immense de Marie médiatrice. Voilà. Les grâces qui vont passer par Marie, nos demandes qui vont passer par Marie. Voilà, quand on égrène notre chapelet, hein, jour après jour, on égrène notre chapelet, cette prière monte dans les mains de Marie et Marie la présente à son fils Jésus. Ça, c'est important. Et donc, pour moi, la tendresse de Marie, elle est différente de la tendresse de Dieu. C'est la tendresse de Marie, c'est la médiation de Marie. Hein. C'est ce lien qu'il y a, que Marie fait un pont entre nous les hommes et son fils. Voilà, elle nous amène au fils toujours. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci, Marie n'est pas une déesse, il n'y a pas de problème, on peut prier Marie, il y a des gens qui font des tas de choses compliquées en théologie. Marie, c'est juste, voilà, c'est notre mère et ce qu'on lui demande. Vous savez, moi. Quand parfois je refusais à l'un de mes enfants, je disais ah non, ça c'est pas possible. Alors les enfants, ils ont compris, hop, ils vont parler à leur mère, Hein. Ils vont essayer de négocier avec la mère, essayer de convaincre la mère. Et puis après, ensuite, j'ai ma femme qui arrive le lendemain matin et puis qui me dit « Ah ouais, tu sais, à propos de ça, voilà, bon, je crois qu'il serait bien pourquoi, on pourrait peut-être revoir un peu. Oui, c'est pas idiot ce qu'il demande là. » Je dis « Bon, alors. » Et puis moi, je peux pas dire non à ma femme, vous savez. Donc voilà, donc s'ils ont réussi à convaincre mon épouse, c'est gagné. Voilà. Mais donc, vous voyez, ce rôle de médiatrice. Et puis… ce qui est aussi important, c'est que parfois les gens, ils ont plus de difficultés parfois à s'adresser, à avoir cette relation amicale avec le Dieu, parce que bah, Dieu, c'est parfois c'est quelque chose de oh là là, c'est Dieu tout-puissant, tout voilà, c'est pas forcément. Alors Marie, elle a aussi ce rôle, je dirais, de nous rendre plus facile l'accès à Dieu. Hein. On a peut-être plus facilement à se confier à Marie. Voilà, c'est aussi une possibilité. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que ben, si on a une difficulté dans la vie, parfois ben, certains sont plus proches de dire, tiens, ben, ça, j'ai une peine de cœur, ben, je vais en parler à ma grand-mère avant d'en parler à ma maman. Par exemple, vous voyez, c'était un peu pour dire, il y a c'est facile d'accès. Voilà.
Chers auditeurs de Radio Maria, vous écoutez l'émission L'éducation dans les évangiles avec Hugues Dollier qui nous parle aujourd'hui de la tendresse de Marie. Alors, Hugues, pour revenir peut-être sur cette phrase quelque peu énigmatique des noces de Cana, qu'y a-t-il entre toi et moi? Je crois que ça fait référence à une coutume qui voulait que lorsque deux chefs de clan se mettaient d'accord, on cassait un bâton en deux. Et lorsqu'ils se rencontraient à nouveau, donc ils rejoignaient les deux bouts de bâton, ils ne devaient rien avoir qui gênait la jonction entre les deux bouts de bâton. Et en fait, cette phrase de Jésus voudrait dire, ben, justement, il n'y a rien entre toi et moi qui gêne.
Ah, je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Alors souvent, enfin, souvent c'était des pièces de poterie qu'on cassait plus que des bâtons parce que c'est plus solide et on ramenait les deux pièces de poterie l'une en face de l'autre pour qu'elles soient vraiment bien et exactement l'une contre l'autre. Mais donc voilà. Alors je ne savais pas ça, cette interprétation de Cana. Donc merci Sandra de nous le dire. Ça a été traduit comme ça. Donc sur la traduction qu'on a aujourd'hui, c'est pas qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi, qui ça c'est la traduction plus proche hein, de plus proche. Ce qu'on a droit aujourd'hui, c'est que me veux-tu femme? Voilà, mon heure n'est pas arrivée. Que me veux-tu, femme? C'était plus simple à comprendre, mais effectivement, c'est qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Qu'y a-t-il de toi à moi? Voilà. Alors, ce texte-là, ce qui est important aussi, c'est de le mettre en écho avec le recouvrement de Jésus au temple. Hein, c'est l'un se parle avec l'autre, puisque Jésus, donc, pendant 3 jours, disparaît, il est au temple. Et à ce moment-là, Marie intervient et lui dit « Ton père et moi, nous étions dans l'angoisse. » Voilà. Et là, il y a un peu la même réponse. Hein. Ça serait un peu « Qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mais ne sais-tu pas, pourquoi est-ce que tu te préoccupes? Ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon père? » Voilà. Et à ce moment-là, ça va être le même schéma. Ça veut dire qu'à ce moment-là, par l'Esprit Saint, Marie explique à Jésus « Ton heure n'est pas encore arrivée. » Donc, ce n'est pas maintenant que tu dois aller au temple, ce n'est pas maintenant que commence et tu dois revenir avec nous à Nazareth tailler du bois avec ton père. Et donc, il redescendit à Nazareth avec eux, il leur était soumis en toutes choses et il grandissait en âge et en sainteté. Donc, on voit qu'à ce moment-là, l'Esprit Saint dit à Marie, par Marie, à Jésus, ce n'est pas le moment. C'est ton heure n'est pas le moment, c'est pas le moment de faire ton premier miracle, de commencer ta vie publique, ce sera plus tard. Et il va attendre encore 20 ans, hein, puisqu'il commence sa vie publique à l'âge de 30 ans. Et donc, oui, c'est ça, une bonne quinzaine d'années. Et ensuite, à nouveau, c'est Marie qui lui dit, eh ben Maintenant, ton heure est arrivée, dans le sens ton heure de te manifester, de manifester la puissance. Donc, ce n'est pas ta croix, mais c'est l'heure de manifester ta puissance. Et ça repasse à nouveau par Marie. Donc, vous voyez, là, on voit comme c'est important la place de Marie dans l'œuvre du salut, parce que c'est elle, voilà, qui va par l'Esprit Saint dire à son fils, eh bien, allez, vas-y maintenant, et voilà, ça va partir. Je fais juste une petite remarque biblique, hein, qui est importante, c'est que Saint Jean, qui est le disciple marial, hein, qui a compris Marie, il prie Marie chez lui, donc il a vécu des années avec Marie, il connaît, il a tout compris, il a compris l'importance de la Vierge Marie. C'est la raison pour laquelle, eh bien, tout l'évangile de Jean va être pris en tenaille par Marie. C'est-à-dire que le début de l'évangile, il y a le prologue, mais ensuite on commence directement par les noces de Cana, qui est, Saint Jean est le seul évangéliste qui parle des noces de Cana, hein, ça se trouve dans aucun autre évangile, et donc c'est le chapitre 2, c'est le début, en fait, donc le début de l'évangile de Jean, c'est les noces de Cana, donc il commence par la Vierge Marie, en disant, la bonne nouvelle, eh bien, elle commence parce que Marie dit à Jésus, vas-y. Et ensuite, on arrive au chapitre 19, qui est quasiment la fin, c'est-à-dire que Jésus est en train de donner son dernier soupir, il est en train de mourir, et ce moment-là, on est à la fin de la vie de Jésus, et là, à nouveau, Saint Jean relate, et ça, on ne le trouve que en Saint Jean, l'importance de Marie en disant « femme », il ne dit pas « mère », hein, il dit « femme, voici ton fils », donc on retrouve ce mot-là « que me veux-tu, femme hein, », donc la distance au sens que ce n'est pas maman, il ne dit pas maman, prends Saint Jean avec toi. Non, c'est femme, voici ton fils, fils, voici ta mère. Et ça va clôturer hein, la fin du message de Jésus. Donc, Saint Jean a compris toute l'importance de Marie dans l'œuvre du salut. C'est-à-dire que Marie, elle est au départ et elle est à la fin. Voilà, donc l'évangile de Jean est encadré par Marie. Marie est très discrète, elle ne parle pratiquement pas. Dans l'évangile, elle est toujours discrète, elle est là. Ce n'est pas le premier pape, Marie, hein, donc elle est toujours discrète. Mais elle amène toujours au Fils, à Jésus. Voilà. J'aurais voulu évoquer un autre aspect de la tendresse de Marie, qui est le fait que Marie tient ses enfants par la main. Voilà, dans les épreuves de la vie, Marie nous prend par la main pour nous aider à traverser ces épreuves. C'est, vous voyez, le manteau de Marie. Marie nous protège sous son manteau. Ça, c'est des images. Quand on éduque nos enfants, c'est pas simplement de dire bah, la Vierge Marie, c'est la reine du ciel, c'est la plus importante de tous les saints, parce que dans l'ordre, il y a d'abord Jésus, puis après, on va mettre la Vierge Marie, après on mettra, je sais pas, Joseph, enfin on fait des classements, après on mettra la petite Thérèse, la grande Thérèse, la petite Thérèse, puis après Saint Jean-Paul II. On ne fait pas des classements comme ça. On explique comment Marie est proche, mais il faut que ce soit quelque chose qu'on vit nous en tant que parents, sinon on a du mal à le transmettre, vous voyez hein. Je me souviens, moi, j'ai rencontré pendant les... Il y a eu cette magnifique fête des 25 ans de Radio Maria, j'ai rencontré un auditeur et il me racontait ça. Il me disait, moi, j'étais veuf, jeune, hein, il avait à peu près même pas 50 ans quand il a perdu sa femme. Il était bon, bah, très, 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 très accablé. Hein, bah, c'était une épreuve très, très difficile pour lui. Voilà. Et puis, il est allé faire une retraite avec un ami. Et là, il a découvert la tendresse de Marie. Et en particulier par l'intermédiaire de Radio Maria. Alors, c'est amusant parce qu'on est sur Radio Maria. Il m'expliquait que, voilà, maintenant, il dit Radio Maria, ben, ça me transmet, par en écoutant ben, voilà, le chapelet, tous les enseignements, ben, ça me transmet cette tendresse de Marie. Voilà, il dit ça m'a sauvé, ça m'a fait repartir dans la vie, voilà, suite à cette épreuve. Donc, vous voyez là, le fait de Marie, vraiment cette image qui nous tient par la main. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut transmettre à nos enfants dans notre catéchèse, quand on parle de la Vierge Marie. Moi, j'étais marqué, c'est pratiquement presque jour pour jour, mon père quittait, il y a un an, quittait cette terre pour aller vers le ciel. Voilà, bon. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que dans ses derniers instants, mais vraiment les dernières heures, hein, avant de partir, eh ben, il a réclamé son chapelet. Voilà, hein. Voilà cette tendresse de Marie qui nous accompagne dans notre passage de la terre vers le ciel. Voilà, bah, tout simplement, on récite un chapelet. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Voilà, à l'heure de notre mort, Marie nous accompagne. C'est pas facile le passage, hein, de la mort. Eh bien, Marie est là et elle nous tient par la main. Et elle dit, allez, on va traverser la rivière et on va aller de l'autre côté vers le ciel. On va retrouver Jésus. Voilà, donc ça, c'est beau, cet accompagnement de Marie lors de notre passage.
J'étais en train de rechercher une prière du Père Cormier, justement sur le rosaire qui nous accompagne, plus précisément Marie qui nous accompagne jusqu'à la fin. Est-ce que vous me permettez de lire cette prière?
Oui, tout à fait, Sandra, tout à fait, avec plaisir.
Alors, donc la voici. Je vous remercie, ô mon Dieu, de m'avoir donné par Marie un moyen de sanctification aussi excellent, chaîne aimable pour guider mes pas dans la vie active, ombrage délicieux pour abriter mon cœur dans la vie contemplative. Je ne quitterai jamais mon trésor. Toute ma vie, au contraire, je l'emploierai avec foi, ardeur, persévérance. Et à la fin de mes jours, quand je ne pourrai plus me consacrer aux œuvres extérieures, quand il me sera impossible de prêcher, d'enseigner, de psalmodier même, je dirai encore le rosaire. Et si je ne puis plus, je le tiendrai du moins entre mes mains ou devant mes yeux. Il sera, sous des formes diverses, l'aliment perpétuel de ma contemplation, ma récréation de toutes mes heures, ma patience pour souffrir, ma préparation à mourir.
Très jolie prière, Sandra. Merci de nous l'avoir partagée. Hein. Voilà. Et c'est ce texte. Moi, mon papa ne pouvait pas parler. Il pouvait plus parler. Donc voilà, il récitait son chapelet de l'intérieur parce qu'il pouvait pas l'exprimer. Donc c'était vraiment exactement c'est une très belle prière qui correspondait, voilà, justement à ce témoignage, voilà, de ce que j'ai pu vivre, voilà, dans ce passage vers le ciel. Voilà. Et je me souviens, j'ai accompagné comme ça une sainte femme, une petite Simone. Simone, bon, elle est partie comme ça. Elle avait un cancer généralisé. Et alors, c'est une petite orpheline. Voilà, elle avait été abandonnée à la naissance. Hein, et voilà. Et alors donc, elle s'était mariée avec un veuf en disant, bah, ces pauvres enfants, ils n'ont pas de maman, donc je serai leur maman. Voilà. Et alors donc, elle avait épousé un veuf et puis elle avait donné beaucoup de tendresse comme ça à ses enfants. Et voilà, donc vraiment une sainte femme. Et elle était là sur son lit de mort et elle me disait, oh, mais mon mari, comment il va faire si je suis pas là? Comment il va se débrouiller? Toujours préoccupé. Voilà, toujours tourné vers les autres. Et voilà. Et alors on sait pas trop quoi dire. Eh bien voilà, ce qu'on dit, on a dit un chapelet, une dizaine de chapelets ensemble, voilà, et puis elle s'est éteinte quelques heures après, voilà. Donc c'était voilà, vraiment dans la paix, dans la douceur, donc voilà, cette paix de Marie, hein.
Alors,
Ce que je
Hugues,
crois que c'est... Oui, Sandra.
oui, nous avons une auditrice qui souhaiterait
Oui.
intervenir. Il s'agit d'Eliane. Eliane, c'est à vous.
Voilà.
Oui, Eliane,
Bon,
bonjour.
bonjour, mon père. Je ne sais pas si je me trompe parce que j'ai écouté votre émission. J'ai pris à part
Je
au
suis
bon endroit.
père de famille, mais ce n'est pas un
Voilà.
problème.
Voilà.
Allez-y, allez-y.
Moi, mon mari, le pauvre, était en train de décéder. Il ne pouvait pas parler. Moi, j'ai assisté à la mort de mon père, parce que mon père est décédé chez moi. Et mon père avait dit maman. Et mon mari, c'était un homme qui n'a jamais pu dire maman parce que sa maman était morte quand il était tout petit. Alors, vu que mon mari ne pouvait pas, nous étions autour de mon mari, et ça c'est important que les familles le sachent, d'être important au moment d'un décès d'un membre de la famille. Et on a pris notre chapelet et on était en train de prier tous autour de mon mari. Mon mari ne pouvait pas, mais nous, on l'a fait. Voilà, c'est ce que je voulais vous témoigner. Voilà, parce que franchement, comme vous dites, Radio Maria nous porte énormément. Moi, il y a le 2 ou 3 jours que je venais de perdre mon mari, il y a quelqu'un qui est venu chez moi et il m'a mis Radio Maria. À l'époque, il n'y avait pas encore de... comment vous dire, d'antenne, voilà.
Oui, voilà. Oui, oui.
Et je vis avec Radio Maria tous les jours, des fois ça plaît pas trop à mes enfants, mais je vis le jour et la nuit avec Radio Maria.
Eh ben, merci pour votre témoignage.
Merci pour votre témoignage. Merci à vous pour le courage de dire tout ce qui... Parce que c'est vrai que le chapelet, c'est important de prier, même si on ne dort pas. Il ne faut pas prendre des cachets pour dormir. On prend le chapelet et on prie.
Et on ça s'est dormi.
Voilà. Allez, très je bien. Vous remercie.
Merci.
Et merci,
bonne
journée.
Merci pour votre témoignage.
Merci, Eliane. Voilà, il nous reste 3 petites minutes peut-être pour ajouter quelque chose sur notre thème d'aujourd'hui ou pour une conclusion.
Oui, oui. Alors, il ne faut pas non plus... Ce que je voudrais dire juste, c'était... Je voulais vous donner un petit témoignage, là, si on a encore 2 minutes, là. C'est mon frère est prêtre. Et il m'avait fait ce témoignage-là. C'est pour dire qu'il y a des gens qui disent « Oui, mon mari, je ne connais pas bien, je n'ai pas, etc. » Et ça peut, ça, parfois, ça prend un peu du temps. On peut découvrir Marie. Ce n'est pas forcément immédiat, quoi, cette relation de proximité, de tendresse, d'amitié avec Marie. Donc, mon frère me disait, entre 40 et 45 ans à peu près, il a eu une deuxième conversion. C'est-à-dire qu'il avait une première conversion vers l'âge de 20 ans à peu près, quoi, hein, quand il a décidé après d'entrer un peu plus ou un peu plus tard, 20, 23, 24 ans, quand il a décidé d'entrer au séminaire, voilà, pour être prêtre. Donc, il a eu une conversion à Jésus. Hein, et bon voilà, et donc il était prêtre, tout allait bien. Et puis à un moment donné, il a eu une seconde conversion, et à nouveau, vraiment, il a reçu l'Esprit Saint très fort en lui. Et notamment, il a découvert Marie, il a découvert l'importance de Marie, Marie comme mère, la tendresse de Marie. Voilà, il nous disait vraiment, ça m'a changé ma vie. Voilà, avant, il avait un peu une vie de prêtre sans la Vierge Marie, et ensuite, bah, ça, un peu plus tard, quoi, ça arrive. C'est pour ça que je veux dire que si. J'ai dit aux auditeurs, ben voilà, c'est aussi une richesse. Et puis certains, mais ils mettent un petit peu de temps pour découvrir cette tendresse de Marie. C'est pas grave, ça arrive en son temps, hein, voilà. Et se dire que voilà, qu'à un moment donné, ben, Marie fait partie de notre vie, voilà. Mais de bien en parler à nos enfants de l'importance de Marie, le chapelet, parce que il faut pas laisser Marie sur ces nuages là-haut. C'est-à-dire que sinon, c'est Marie de Lourdes, elle fait les miracles. C'est vrai, quoi. Marie de Lourdes fait les miracles, mais on la met au-dessus, elle flotte au-dessus des nuages avec des anges. Ça reste une Marie très très miracle, très apparition. On s'imagine qu'on va la voir apparaître comme ça au fond d'un bois. Voilà. Non, Marie, elle est dans notre vie, elle nous accompagne, elle nous tient par la main tous les jours. Donc c'est plus simple que ça, c'est pas besoin de regarder dans le ciel si Marie, tout d'un coup, va apparaître. Elle est dans notre cœur, elle est au profond de nous, et elle nous aime. Et voilà, elle a cette compassion de mère, hein, surtout ben, pour ses enfants qui sont en difficulté, ses enfants qui souffrent. Hein. Moi, je pense, avec cette guerre qu'il y a, voilà, tous ces soldats qui meurent tous les jours, des pères de famille, voilà, des époux qui sont dans la guerre, et bien à chaque fois, Marie, voilà, elle verse une larme, hein, mes enfants chéris, qui s'entretuent, hein, entre chrétiens, ils se tuent entre chrétiens, voilà. Donc là, c'est une grosse souffrance pour la Vierge Marie. Donc on confie vraiment tous ces gens qui souffrent, voilà. Et bien, voilà, je pense qu'on peut terminer par cette conclusion de Marie qui est attentive à chacun de ses enfants et qui les tient par la main très fort. À très bientôt, chers auditeurs.
Chers auditeurs de Radio Maria, c'était l'émission L'éducation dans les évangiles avec Hugues Dollier qui nous a parlé de la tendresse de Marie. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.